Vous écoutez
RMC.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Kevin. Bah, en premier point, c'est forcément la victoire de l'OGC Nice, même s'ils ont eu un peu de difficulté sur la fin. Ils ont quand même mérité sur l'ensemble du match, parce que et ce sera mon deuxième point, cette équipe du FC Nantes a été trop frileuse sur la première heure de jeu. Ils ont tenté d'attendre cette équipe niçoise, mais finalement, ils ont jamais réussi à faire leur retard. Et le troisième point, c'est quand même la présentation, en tout cas l'officialisation de Cédric Bakambu pour l'Olympique de Marseille, que je trouve un choix vraiment très intéressant. Et encore une fois, alors seul l'avenir nous dira si ce sera très positif. En tout cas, l'idée est là, c'est gratuit, c'est un joueur qui est libre, c'est un joueur qui a de l'expérience, c'est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes. Donc bravo encore une fois à Pablo Longoria.
Jonathan. Premier point, c'est une victoire qui est méritée pour l'OGC Nice, même si Nantes a bien réagi, notamment dans la seconde partie de la seconde mi-temps. Mais en tout cas, c'est une victoire qui, si tu regardes le film du match, tu dis Nice mérite ses trois points. Le deuxième point, c'est encore sur Nice, c'est la belle série niçoise. C'est la quatrième victoire consécutive en Ligue 1. C'est un solide dauphin, à mon sens, du Paris Saint-Germain. Ce soir, il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées dans le jeu, mais si Nice est capable de gagner ce genre de match-là, ça veut dire, à mon sens, que Nice luttera jusqu'au bout pour cette deuxième place. Et le troisième point, c'est le FC Nantes, malgré les absents, a livré une prestation assez solide. Et j'ai quand même quelques espérances sur la seconde partie de saison nantaise. Je trouve que cette équipe de Nantes, même si elle est parfois un petit peu limitée, parfois un petit peu stéréotypée, elle sait ce qu'elle est, elle sait ce qu'elle fait. Et je trouve que c'est une équipe qui est plaisante à voir en Ligue 1.
Voilà pour les trois points qu'on va développer, ceux de Jonathan et de Kevin. On vous attend nombreux, supporters niçois, nantais, marseillais également, parisiens au 32-16. Vous pouvez nous appeler bordelais également, une petite info marrante à Bordeaux. Hein. A priori, Koscielny va jouer dimanche, hein. Il sera capitaine.
Sérieux?
Oui.
Ouais, je n'y comprends plus rien.
Il faut que tu nous expliques, Nico.
On en parlera tout à l'heure, bien sûr, messieurs. Point classement, Nice, 21 matchs, un match de plus que Paris, bien sûr. Deux matchs de plus que Marseille, qui va devoir jouer son match face à Lyon en plus, avant d'accueillir Lille dimanche soir. Marseille-Lille dimanche soir, et il y a le match contre Lyon après. 47 points Paris, 39 points Nice, deuxième de Ligue 1. 39 points après 21 journées, c'est costaud quand même, hein, les gars. Nantes reste 9e avec 29 points.
C'est costaud, tu trouves? Ça fait moins de 2 points par match.
39, oui, tu as raison.
C'est pas si costaud que ça.
Oui, on est sur des bases en fait, de 70 points là.
Non, mais tu sais, Nico,
pour le GC Nice,
non, points. Mais pour une équipe qui est deuxième de Ligue 1, qu'en fait, en Ligue 1, à l'heure actuelle, t'es juste le Paris Saint-Germain qui soit à plus d'une moyenne de 2 points par match.
C'est vrai.
Je trouve que c'est assez significatif, mais faut attention, on peut avoir de grilles de lecture. Soit on se dit que c'est faible, etc. Moi, je vois surtout que de la deuxième à la, allez, dixième place, les équipes, même 11e place, j'inclus Lyon, les équipes ont un niveau qui est assez homogène quand même.
Ouais,
on a une très très grosse lutte.
Ouais, c'est clairement ce qui se passe. Hein. De toute façon, c'est un championnat qui est assez équilibré. C'est un championnat où certaines équipes arrivent à faire des séries. Ça a été, là, c'est le cas de Nice. Ça a été le cas de Brest aussi, qui a enchaîné, je crois que c'était 5 victoires consécutives.
Exactement.
Donc forcément, quand tu fais une belle série comme ça, c'est ce qu'espèrent les Lyonnais et Peter Bosz sûrement pour se replacer dans le haut du classement. Mais oui, il y a Marseille qui depuis le début de saison est quand même souvent installé pas très loin du podium. Mais sinon, il y a eu des belles séries de Rennes,
il y a eu des belles séries de Nice. Ce qui est drôle, c'est que c'est en fait ce qu'on dit là, c'est valable entre aller la deuxième et la treizième place. Parce que par exemple, une équipe comme comme Lens, qui a une série très négative, au final, ils sont tombés qu'à la sixième place, alors qu'ils étaient deuxième. Ça veut vraiment dire qu'entre il y a un trou qui s'est fait entre la deuxième et la onzième, douzième place. C'est vraiment un bloc que je qualifierais d'homogène, même s'il y a quand même une différence de points qui est notable, que je dis homogène en termes de niveau. Et après, c'est vrai que 12e, 13e place, t'as quand même un très gros gap. C'est-à-dire qu'à mon sens, je suis un peu long, mais entre la 2e et la 12e place, tout le monde peut battre tout le monde. Et après, t'as une vraie différence avec les autres. Il y a Paris, un gros groupe de la 2e à la 12e place et les autres. Ça fait vraiment trois tableaux distincts, à mon sens.
Nice, même hein, c'est même 4 victoires consécutives en Ligue 1, là, Nice. Hein.
Ouais.
C'est une belle série, hein, 12 points sur 12.
Ah,
j'accueille Hugo, 32-16. Salut Hugo! Bienvenue sur l'AFTER.
Salut Hugo.
Salut Hugo.
Comment t'accueillir? Ouais, donc moi, je suis d'accord avec ce qui vient juste d'être dit et ce qui a été dit avant. C'est vrai que nous, en fait, notre gros problème, les matchs contre Nantes, par exemple, aujourd'hui, c'était nos matchs pièges. On avait perdu contre Montpellier alors qu'on était en pleine bourre, soi-disant, et on avait craqué et tout. Aujourd'hui, au-delà du score qui est, voilà, par 1-2-1, c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Mais par contre, on a qu'il faut, c'est qu'on a vaincu ce problème psychologique de à chaque fois qu'on est vraiment dans une bonne dynamique, on craque contre l'équipe qui arrive et où on est favori, on va dire quoi. Ouais. Et du coup ce soir on n'a pas craqué. Ça c'est vrai et que pour le coup effectivement oui entre Paris et nous il y a un gap et c'est vrai qu'on a un gros bloc au milieu. Par contre si on arrive aujourd'hui à vaincre ce problème psychologique, je pense qu'on peut être je me rappelle quand on avait Lucien Favre qu'il y avait Monaco qui était à côté de nous, je me disais cette année je sens Monaco au-dessus de nous en fin de saison. Là pour le coup, je vois aucune équipe qui je vois nous avoir une large possibilité de finir deuxième cette année-là.
Ouais, attention quand même, parce que certes Nice sera dans la course pour le podium, mais Marseille a par exemple deux matchs de retard.
Marseille, je les comprends complètement, mais pour le coup Marseille est capable de craquer aussi. On l'a vu cette année.
Mais vous
pour
êtes capable aussi de craquer.
Entre Marseille et nous, il y a aucune des deux équipes. Alors nous, ce soir, on a confirmé avec la victoire contre Nantes. On attend de voir Marseille. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a aucune équipe, des deux équipes qui s'est dégagée en termes de sérénité, de résultats, quoi. Pour le coup, nous, aujourd'hui, ouais.
Je vais mettre les pieds dans le plat puisque ça a été souvent un des sujets récurrents dans l'after. Mais, est-ce que tu peux me permettre de penser que cette équipe de Nice, cette saison, qui a beaucoup plus de talent qu'il y a deux ans, me fait penser à celle de Patrick Vieira qui a fini européen et dont tous les Niçois disaient qu'il n'y avait pas beaucoup de jeu. Je ne comprenais pas comment vous étiez à cette
place-là. Attends, Hugo.
Il y a énormément plus de talent maintenant.
Réponds Hugo, je réponds après Kevin. Il n'a pas dû voir le match, je crois, Kevin.
Pourquoi aujourd'hui, tu as vu le football du Barça?
Non, ça, je ne parle pas de ça, Kevin. Laisse Hugo développer, j'ai un avis aussi.
Il ne faut pas abuser non plus, le football de Patrick Vieira était vraiment... D'ailleurs, Patrick Vieira, c'est très simple. En deux ans et demi...
Je parle de l'année où ils finissent européens.
Oui, mais même l'année où ils finissent européens, il n'a pas réussi à dégager une structure titulaire de toute l'année. Quoi. Genre, j'avais fait un thread dessus, moi, sur Twitter, où je dis il n'a pas réussi à mettre deux... Enfin, je dirais, il changeait des joueurs à chaque match.
Ah ben, attends, je te coupe 30 secondes, mais on avait quand même la bouillie, Lasmelou, titulaire à chaque match.
J'ai même pas envie d'en parler.
Dernier
de BPL.
Laissez-le parler.
Il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient bien avoir le niveau de Lasmelou, comme vous en parlez de bouillie quand même.
Vite fait. Vas-y Hugo.
Ouais, mais bon bref, aujourd'hui je veux dire, nous on a beaucoup plus de talent qu'il y a deux ans. On a surtout des doublures à des postes, c'est-à-dire que l'autre fois il y a un truc qui était, alors pas ce match-là, mais le match d'avant quand Delors rentre et marque. Juste après être rentré, c'est ça vraiment qui nous fait du bien. Aujourd'hui, on cherche surtout une doublure à Guiri, parce que quand il est en vrai, il y a vraiment si on peut on peut. J'aime pas faire des individualités et chercher qui manque et tout pour le coup, mais quand Guiri manque, il y a vraiment une équipe qui s'enfonce quoi. Et quand Guiri est pas en forme, hein, sans même s'il est sur le terrain.
C'est vrai.
Alors là, pour le coup, parce que c'est vraiment le second attaquant, c'est lui qui balance, c'est lui qui lance les joueurs sur les côtés.
9 buts, Hugo, Guiri, c'est 9 buts, 6 passes décisives cette saison.
Mais ouais, mais c'est surprenant que vous disiez, mais pour moi, c'est pas assez encore.
Aujourd'hui, en deuxième mi-temps, il est pas bon, Guiri.
Carrément. Et puis, je vais vous dire un autre truc, je veux dire, tout le monde a, le match contre Brest, tout le monde a dit, waouh, super, l'extérieur de Guiri, Lucarno pose.
Il fait 2 passes, 1 but contre Brest.
Mais je suis d'accord, c'est vrai. Par contre, juste avant la seconde mi-temps, il rate un caviar de Rosario vraiment devant le truc. J'ai pas envie du tout d'être condescendant ou quoi, mais c'était Brest. C'est-à-dire que contre une équipe un peu plus forte où on rentre pas avec le 2-0 à la mi-temps, on peut se faire punir direct. Et je sais que c'est exigeant, mais par contre il faut pointer les problèmes même quand le match se passe bien. En fait, c'est que ce 2-0 là avant la mi-temps, il nous tenait à cœur. On m'avait appelé à l'after d'ailleurs. Je disais que il peut nous coûter cher. Heureusement, Brest a beaucoup vendangé et n'avait pas les qualités pour le faire tomber. Mais je veux dire, on fait ça, on rentre à 1-0 contre Marseille, par exemple.
C'est vrai.
Et qu'on se prend 3 buts, on finit 3-1, on perd 3-1 au truc, on dira, Guiri, il a fait un match de merde, quoi. Ça tient à pas grand chose, mais je veux dire, il y a des moments du match que Guiri, il y a des moments du match qui ratent et qui sont très importants.
Oui, alors attention, on parle d'un joueur qui a 21 ans. Il a 21 ans, on va voir. T'as raison, c'est un vrai débat à mener sur sa marge de progression. Pour l'instant,
sûr,
en tout cas,
voilà.
Surtout le passage
dire,
à 21 ans.
Contre Brest, tout le monde a oublié ses problèmes de trucs, alors que le match aurait pu se perdre.
Oui, c'est vrai.
C'est un rien, un score. On a commencé à dominer, c'est-à-dire qu'à la 60. Hugo. Minutes après, ben, je veux dire, c'est.
Je veux répondre à. Je veux répondre à Kevin également, qui bon a toujours soutenu Patrick Vieira, il y a une constance dans le soutien, voilà, et là, ça c'est beau.
J'étais un brin provocateur quand même. Hein.
Ah, il commence déjà à nuancer son propos.
Non, je l'ai dit tout de suite.
Bien sûr que c'est pas beau ce que fait Galtier pour l'instant avec Nice. Évidemment, il est arrivé récemment. C'était pas très beau ce qu'ils avaient avec Lille non plus. On va pas se mentir. En revanche, je vois déjà une touche Galtier dans l'investissement des mecs. Sur les 45 premières minutes, tu regardes tous les joueurs concernés. Tout le monde court. Tout le monde est hyper agressif sur le porteur. Bon, Dolberg, il est toujours. Mais tous autour. Kluivert, le pressing est immédiat. Une sorte de rage, de volonté d'aller vers l'avant en permanence. Et sous Vieira, on le voyait pas, ça.
Oui, mais
on voyait pas une telle agressivité collective. Et ça, quand même, c'est une valeur véhiculée par Galtier, qui a fait son succès à Lille également.
Par rapport à Vieira, parce que c'est vrai que les débats qu'on a eus, ils étaient quand même
assez.
Non, mais pour la comparaison Vieira-Galtier, par rapport au débat qu'on a pu avoir il y a quelques saisons. Moi, tu sais, le truc du beau jeu, pour moi, tu le sais, ça veut rien dire. Pour moi, il y a 10 000 manières de bien jouer. Une équipe qui joue le contre à fond, mais qui le fait à chaque fois avec beaucoup d'intensité, même si elle attend ses équipes recroquevillées dans les 30 mètres, mais à chaque fois qu'elle récupère le ballon, pique, et t'as 10 joueurs qui sont au taquet comme des chiens de la casse pour aller attaquer. Pour moi, c'est beau aussi. Mais il y a un truc quand même que tu peux pas enlever à ce Nice-là, et qui est très différent du Nice de Vieira, et Nicolas a justement souligné, c'est l'agressivité. Tu regardes tous les joueurs à la perte du ballon. Il y a des 3 contre 2.
C'est des agneaux avec Vieira, réellement.
Ils sont énormes.
Tu sais pourquoi? Mais tout ça, en fait, c'est pour ça que moi, je voulais à chaque fois mettre un point d'orgue à défendre le travail de Patrick Vieira, qui a dû travailler avec 3 directions différentes. Donc les joueurs, ça, ils le sentent aujourd'hui quand tu es à Nice.
Pas pour le coup, oui.
Pardon?
Oui, c'est vrai, en fait, Patrick Vieira, quand la nouvelle direction est arrivée, il a eu un gros manque de confiance. Il s'est dit, ah ouais, moi, carrément, je veux dire, vous me demandez de travailler avec vous.
Mais c'est pour ça que. Mais c'est pour ça que je finis avant de te laisser la parole, c'est que c'est très important aujourd'hui. Galtier, qui est un très très bon entraîneur, il y a pas de doute là-dessus. Mm-hmm. Il arrive et il a la confiance de ses dirigeants, et ça les joueurs le savent. Donc c'est-à-dire, c'est soit tu montes dans le train de Galtier, mon gars, soit tu restes à la gare de Nice. Donc ça change tout pour le travail d'un entraîneur. Et il a réussi à fédérer. Et aujourd'hui, attention, moi aujourd'hui je taquinais un peu, mais aujourd'hui j'ai trouvé que Nice pendant la première mi-temps joue très bien.
Et il joue très haut. Il défend une différence
avec le ballon. Il joue en 3-4-3 avec le ballon au moment, avec Amavi qui s'aligne un peu avec les centraux parce que peut-être aussi que physiquement il n'y est pas, mais à chaque fois qu'il a pris son couloir, il a quand même été intéressant. Un peu plus haut, il y avait Lotomba avec un Kluivert qui lui décalait sur le couloir gauche pour laisser de la place à Guiri pour venir entre les lignes. Non, vraiment, c'était.
Il y a une vraie différence aussi entre. Hugo, juste, je ne sais pas si tu seras d'accord, toi qui suis Nice au quotidien, mais il y a une vraie différence entre Nice de Vieira et le Nice de Galtier, c'est que sous le Nice de Vieira, t'avais l'impression qu'il y avait des joueurs qui jouaient parce qu'ils avaient des passes droits ou parce qu'ils s'entendaient bien avec l'entraîneur. Là, t'as pas de choix qui me semble bizarre. T'as des choix qui sont juste logiques.
La preuve, Andy Delors, on sait qu'il est très proche de Delors.
Ouais.
C'est que le fils de Galtier est l'agent de Delors. Delors, comme à Brest, sur le banc, il le fait rentrer comme à Brest à l'heure de jeu.
Et 8 buts de passe. Hein,
il pourrait essayer de le valoriser plus, Delors, tu vois. Et il a fait venir à Nice. Non, pour lui, actuellement en tout cas, c'est Dolberg, Guiri.
Et 8 buts de passe, on disait, depuis le début de saison.
Non, mais c'est ça qui est bien. Pour le coup, là, faut reconnaître que Galtier est objectif. Il fait des choix.
Ça, c'est des choses qui font du bien dans le groupe.
Vous trouvez que c'est la meilleure paire, Dolberg, Guiri?
Ah oui, carrément. Mais carrément, c'est de loin la meilleure paire. C'est la paire la plus réaliste. Et je veux dire, Delors est clairement venu en tant que remplaçant de Dolberg. Et je veux dire, et les deux à leur prime, on va dire, Dolberg, il n'y a pas photo. Dolberg, c'est le mec qui nous a sauvé des matchs. Mais dans des matchs où on se disait, mais jamais de la vie on va gagner. Je rappelle le match face à Monaco, justement, celui qui nous donne la Ligue Europa, là. Le match face à Monaco, avant qu'il y ait la crise de Covid, là, le soir où il y a eu le confinement. Bah, c'est Dolberg qui nous marque.
Alors, Hugo, les gars, vous êtes d'accord?
Attends, je vais remercier Hugo, parce qu'on a deux supporters niçois qui arrivent. Merci, Hugo.
Salut, Hugo.
Merci, Hugo.
À toi. Tu reviens quand tu veux dans l'after. Florent est avec nous. Je te rends la parole dans un instant, Jonathan. Salut, Florent, supporter niçois.
Bonsoir, vous m'entendez bien?
Heureux de t'accueillir. Très bien. T'étais au stade?
Super. Ouais, alors je m'excuse d'avance si je dis des conneries, mais j'ai fait le mec intelligent, j'ai oublié mes lunettes, donc j'ai vu le match comme si j'étais sous l'eau.
Mais tu nous appelles quand même, c'est très bien.
Magnifique.
Mais je pense
tu sais que Nice a gagné quand même, ouais.
Bon, ça. Voilà, je pense avoir déchiffré ce qui s'est passé quand même.
Ça va.
Bon, alors, qu'as-tu aimé ce soir dans la prestation, la performance du gym?
Déjà, j'ai aimé la victoire parce qu'en fait, on a toujours des problèmes contre les équipes qui jouent en bloc bas. Donc la manière, est pas exceptionnelle, mais avoir gagné quand on joue ce qu'on joue, c'est pas mal. Et j'ai bien aimé encore une fois Kluivert, moi.
Ouais.
Je le trouve vraiment mieux depuis 3-4 matchs. Après, il revenait de blessure et tout, donc peut-être le temps qu'il se mette en jambe. Mais même s'il fait pas des choses magnifiques, je le trouve bon, tout simplement bon. Après, Khéphren Thuram au milieu, comme d'hab, moi j'aime beaucoup ce joueur.
Ouais.
Je le trouve très solide, très costaud, très et puis mine de rien avec sa taille et tout, il est pas mal rapide avec le ballon en fait.
C'est vrai.
Donc il a un air nonchalant comme ça, un style de Doc Gynéco,
mais
franchement rapide et physique, donc c'est des joueurs de maintenant quoi, un joueur moderne.
Ouais.
J'ai bien aimé la hargne en fait qu'ont mis les joueurs en première mi-temps surtout.
C'est ce qu'on disait exactement, ouais.
Ouais, je trouve qu'ils se battaient sur tous les ballons. Justement, je pense, avec derrière la tête, l'idée que on a besoin de marquer assez rapidement contre ces équipes qui jouent en bloc bas. Parce que on l'a fait, on a eu 3 défaites d'affilée contre Metz, Montpellier, Strasbourg, je crois, à domicile, des équipes qui bétonnaient un peu et qui marquaient sur une ou deux occasions. Et nous, on se cassait les dents sur le mur tout le match. Donc là, je sentais que les joueurs avaient pas envie que ça arrive ce soir, quoi.
Ouais.
Donc ils sont rentrés en mettant le pied, ouais, en se battant pour éviter les touches. Enfin, je veux dire, voilà, c'était pas du très bon.
Il y a un joueur sur lequel je voudrais m'arrêter. C'est quand même Justin Kluivert, parce que ouais, des Néerlandais qui ont signé à Nice, c'était celui pour lequel j'avais le plus d'interrogations. Le talent, il l'a, on le sait, mais j'avais un peu de je me posais quelques questions justement, comme tu viens de dire, sur l'état d'esprit. Des fois, tu vois, ça peut être le joueur un peu gâté qui fait pas forcément les efforts. Et là, j'ai vraiment l'impression que je parlais tout à l'heure de prendre le train, et il est vraiment dedans avec Galtier. Galtier lui fait confiance. Il avait déjà été bon au début de la saison avant sa blessure. Ensuite, il a raté, je crois, quand même 8 matchs. C'est beaucoup. Mais depuis qu'il est revenu, là, il a des jambes. Il court avec. Il refait les efforts sans ballon. Et bon, après, c'est un bon joueur de foot. Hein, on le savait. Mais je suis agréablement surpris par Justin Kluivert. Je pensais plutôt que Calvin Stengs allait s'adapter plus rapidement. Mais on voit quand même que Kluivert est un peu plus vieux et un peu plus de maturité. Il a aussi son expérience à la Roma qui doit l'aider. Et donc, il fait vraiment du bien. Et aujourd'hui, c'est pas loin d'être le meilleur joueur.
C'est ce qui est intéressant à Nice, Florent, également. C'est que Kluivert a manqué 8 matchs, comme tu l'as dit, après la partie de saison. Dolberg en a manqué énormément aussi. Ces deux hommes-là enchaînent enfin des rencontres. Comme par hasard, tu es sur une série de 4 victoires consécutives. Ils sont forcément acteurs de cette série niçoise, pas eux uniquement.
Oui, mais attends, ouais, juste par rapport à ce qu'on disait avant la pause là. Moi, j'entends quand vous me dites que la meilleure paire c'est Dolberg et Guiri. Mais après, je pense que Dolberg c'est le joueur qui a le plus de classe. Mais si tu me demandes de choisir en termes de fiabilité, je choisis 10 000 fois en 10 dollars.
Moi aussi. Hein.
Pour moi, c'est Dolberg, mais sur la durée d'une saison.
Dolberg quoi, tu dis toi?
Dolberg, oui, sur la durée d'une saison. Dolberg, c'est un joueur qui a une classe et qui a une élégance qu'Andy Delors n'aura jamais. Mais Andy Delors, je suis désolé, il est fiable et c'est un chien sur le terrain. Et t'en as quand même un petit peu besoin à ce stade-là du projet Nice.
Il crée plus de profondeur peut-être quand même Dolberg que Delors.
Il est plus fiable, il est moins irrégulier, Nico.
Attends, laisse-le enchaîner, Dolberg. Vas-y, Florent.
Ouais, bien sûr. Après, j'aimerais faire le... Vous savez, comme les coachs, comme coach Courbis, il dirait on joue pas à 11, on joue à 15, etc.
Exactement.
Je veux dire, si on voit les choses avec un peu plus de recul...
Elle était pourrie, ton imitation.
On a quand même un... Ouais, désolé. On a quand même un effectif qui, pour la Ligue 1, qui est très intéressant.
Ah, oui,
moi,
oui.
J'ai pensé à ça à la 60e, quand Dolberg sort, qu'on fait rentrer Delors, je me dis... Ouais, super. Là, on a Lemina qui est à la canne. Ben, on a Thuram qui assure largement.
Atal aussi.
On a Atal qui part. Bon, Lotomba, c'est pas un énorme joueur, mais moi, je le trouve assez intéressant et assez suffisant pour la Ligue 1. Enfin, en fait, ligne par ligne, on a des joueurs qui sont, qui pour la Ligue 1 sont de très bons niveaux. Je pense qu'on sous-estime un peu l'effectif, mais c'est normal parce qu'en fait, c'est un peu, il y a des paris, des jeunes. Donc on se dit, est-ce que la mayonnaise va prendre? Et le fait d'avoir pris Galtier, bah c'est génial parce qu'il arrive à concerner tout le monde. Et au moins dans l'état d'esprit, on sait que les mecs y sont. Et avec le talent qu'ils ont, ça suffit en tout cas pour l'instant.
Oui, c'est ça.
C'est
sur le talent pour l'instant.
Bien
sur le talent et l'engagement pour l'instant.
Je fais une parenthèse, mais vous avez vu le match de notre ami Atal contre la Sierra Leone?
Non, je n'ai pas vu celui-là.
Catastrophique.
Ah ouais. Bon.
Et ça, on a du mal à le retrouver, hein, le latéral qui valait 60 millions d'euros. Hein.
Tu l'as trouvé comment, même si tu voyais flou pendant 90 minutes, Florent, à ma vie.
Écoutez, je l'ai trouvé. J'ai eu l'impression que quand on voyait la défense, à ma vie, restait beaucoup derrière avec Dante et Todibo. Alors que quand on comparait avec Lotomba, lui était beaucoup plus haut.
Ah, c'était clairement une animation, hein, Florent, c'est ce que je disais. Oui, il jouait en 4-4-2 sans le ballon, mais avec le ballon, en tout cas en première période, il y avait clairement un 3-4-3 avec les trois défenseurs que tu viens de citer. Au milieu de terrain, les deux récupérateurs et Lotomba qui était un peu plus haut à droite, Kluivert qui prenait le couloir gauche et notre ami Guiri qui jouait un peu en soutien de Casper Dolberg.
Mais je pense que c'était aussi peut-être je me trompe, hein, mais j'avais l'impression que c'était aussi pour le mettre en confiance et pour que physiquement, il n'ait pas des grandes courses aller-retour piston à faire en fait.
Et d'ailleurs, il en a fait une importante hein, sur le contrôle raté ou la passe ratée de Dante. C'est lui qui, par sa vitesse, vient corriger et vient seulement gêner. Ça a suffi Colomoigny avec une belle sortie de Benitez.
Mais je pense que voilà, Amavi sera très bien chez nous. On est content de le revoir.
Il
est content de revenir. Et je pense qu'il va être avec beaucoup moins de pression, beaucoup plus libéré. Et c'était un très bon joueur. Donc il n'y a pas de raison qu'il ait perdu totalement. Ses capacités, enfin, moi j'y crois, j'aimais beaucoup ce joueur à l'époque. Il a permis de nous payer un beau centre de formation, puis il revient pour quasiment rien, c'est parfait.
Voilà. C'est vrai que t'as raison, son départ a permis à Nice de.
Mais alors, entre-temps, il y a quand même eu peut-être, je dis ça comme ça, hein, des petits problèmes de discipline et de professionnalisme. Hein.
Bon après c'est Clément Brossard qui disait pendant le match que justement pour le taquiner un peu ou peut-être pas d'ailleurs mais certains joueurs niçois à son arrivée l'avaient remercié Jordan Amavi parce que son transfert avait donc permis de payer le
centre. Jonathan,
du côté d'Aston Villa je suis pas sûr qu'on les remercie.
C'est pas pour critiquer hein, tu le sais mais Marseille ça lui allait pas. C'est un Niçois, il a été formé chez nous. Qu'est-ce qu'il a allé faire là-bas?
Il a bien vécu.
Forcément qu'il n'allait pas se sentir à l'aise et tout.
Il s'est peut-être senti trop à l'aise.
Vous êtes pas pareil, tu dis? C'est quoi la différence?
C'est un ennemi déjà de base. Et puis il faut quand même. Non, mais moi je pense que le problème, il faut le regarder en face. C'est je pense qu'il s'est peut-être senti un peu trop à l'aise à Nice, à Marseille. C'est tu vois ce que je veux dire?
Il a peut-être pris le melon, hein, avec l'équipe de France.
Juste senti trop. Alors, je vais te faire la carte de Jordan Amavi à Marseille. Il arrive d'Angleterre, donc, opportunité. Ça se passe mal en Angleterre, il remonte à Marseille. Il est très bon. Et puis, à cette sélection en équipe de France, par Didier Deschamps, où il se blesse, il ne se rend pas du tout. Mais je pense que, à partir de là, il y a un truc qui s'est cassé. C'est très bizarre, hein. Mais je pense que dans sa tête, il s'est peut-être cru un petit peu trop arrivé. Et le joueur qui était vraiment en train de redevenir le talent qu'on espérait, ça a dégringolé tout doucement en fait à partir de là. Hein. C'est très très bizarre. Et après, quand je te dis, je pense que oui, c'est un Niçois, etc. Mais je pense quand je te dis qu'il a peut-être un petit peu trop aimé Marseille, j'espère que tu arrives à lire entre les lignes et que tu comprends ce que je veux dire.
Oui, bon, il y a aussi des choses à faire à Nice, tu sais. Merci Florent.
Merci à vous les amis, Florent. Puis bonne année au fait.
Hein. Et bonne année à toi aussi. Hein.
Ouais, bonne année. Et pense à tes lunettes la prochaine fois.
Je vous ferai une analyse un peu plus sympa la prochaine fois.
Enfin, pour un mec qui voyait rien, t'as quand même bien vu le match, j'ai l'impression.
Écouté à la radio.
Et presque. En plus, c'est vrai, des fois pour suivre, je mets la radio en même temps et ça marche bien.
Merci Florent. Allez, très bonne soirée. Tu reviens quand tu veux dans l'after. Alors les gars, Nantes qui s'incline 2-1 ce
honorable
soir
avec les mentions.
Ouais, Nantes qui aurait pu arracher une égalisation.
Bon après petit manque d'ambition en première période quand même.
Oui.
Même si ça faisait partie du plan de jeu, on l'a bien compris avec cette défense à 5, ce 5-4-1, ils ont tenté de rester bien en place et de laisser le seul Colomoigny presque tenter de il a bien failli le faire d'ailleurs, il a bien failli réussir. Maintenant, c'est quand même dommage parce que, notamment, il y a un joueur quand même qui est très intéressant. Moi, je l'avais vu quand j'étais voir le match face au Paris Saint-Germain au Parc. Et c'est vrai que quand t'es au stade, tu vois encore mieux les qualités des joueurs. Mais qui arrivait là, c'est un bon joueur de foot. Un bon joueur de foot, bon pied. Oui.
On l'a mis, en fait, à chaque fois que Nantes joue, t'as remarqué qu'on le met en avant?
Ouais, c'est vrai qu'il est bon. Colomoigny, je trouve quand même de mieux en mieux aussi. Il arrive quand même à digérer toutes ces histoires autour de son non-transfert, son contrat.
J'ai trouvé Blas un peu en dessous. par rapport à ses sorties précédentes.
Après, ce genre de match pour Ludovic Blas, c'est compliqué.
C'est
un joueur créatif, il doit courir,
sur le côté,
il doit courir après le ballon pendant 60 minutes avant que son équipe. Par contre, je sais pas si vous avez vu, il y a quand même une petite altercation assez paradoxale entre Corchia et Giroto au moment du premier coup franc, celui qui est tiré par Corchia, et derrière au deuxième, il y a encore les deux joueurs qui sont pas d'accord, et finalement c'est Giroto qui choisit quand même de frapper, qui va marquer sur une petite erreur de Benitez. Mais quand même, à ce niveau-là, on espère que l'entraîneur a décidé, on l'avait vu en équipe de France pendant l'Euro, mais j'espère que Camboré, quand même, il a dit aux joueurs qui est-ce qui tire les coups francs à cette distance, parce que ça fait quand même bizarre de voir deux professionnels, deux fois de suite en 10 minutes, se chamailler pour un but, et derrière, il y a but. Bien en sûr. Plus, et t'as l'impression que l'autre, il repart presque en entraînant les pieds.
Colomoni, il est très intéressant, ce joueur, quand même.
Non.
Notamment sur en première période, sur l'action qu'il a tout seul. Enfin, c'est lui qui se l'a créé, il a une vitesse folle.
Il est bon techniquement.
Et comment ?
Il est quand même bon
techniquement, il est puissant, est fin.
Je vais mettre un petit bémol.
Oui.
Très rapide, puissant, je trouve, par rapport à son gabarit.
La finition.
Bonne maîtrise du ballon, ouais.
Je trouve qu'en termes de finition, il est correct.
Oui.
Mais par contre, en termes d'intelligence et de choix, c'est un joueur qui est encore jeune.
Ouais.
Voilà.
Ouais,
c'est un joueur qui est encore jeune.
Travaille aussi dans la finition. Mais bon, normalement, comme tout, c'est normal. Hein,
comme tous les jeunes. Comme tous les jeunes.
Attention, c'est un joueur qui partira en fin de saison. Hein, c'est complètement fou, là aussi. C'est ubuesque, la situation de Colomoni. Je vous rappelle que Nantes n'a pas réussi à le prolonger.
C'est le cas d'autres joueurs. Hein.
Oui, non, mais attends. On en a parlé dans l'after cette semaine. L'histoire de sa proposition de prolongation est assez étonnante quand même. C'est un homme qui a 15 000 euros par mois. C'est une politique à Nantes. Hein. Les jeunes de former au club, on les fait monter par palier. Sauf que quand il le voit pour le prolonger, il lui propose 30 000 euros à l'écrit, mais à l'oral, 50 000 euros à l'oral. Hein.
Oui,
alors,
rien.
C'est dingue. Donc ses agents, ils disent, attendez les gars, c'est votre meilleur buteur depuis un an et demi, on veut un peu plus quand même. Du coup, ce jeune homme avec son entourage
a
décidé de partir de Nantes, et c'est ainsi.
Et les gars, c'est quand même dommage qu'un club de Ligue 1 ne soit positionné sur lui, surtout. Je pense à Lyon, je pense à Monaco, je pense
bien
à Marseille.
Sûr, t'as raison.
C'est quand même terrible.
Ils se sont renseignés,
c'est un joueur libre,
notamment l'Olympique Lyonnais, ils se sont renseignés.
C'est un joueur libre.
Mais c'est quand même terrible que ces clubs-là n'arrivent pas à le garder chez nous. C'est quand même un super joueur, il a fait des super JO aussi. Bon, c'est dommage.
Tiens, une stat que j'avais relevée pendant le match, là, à la fin du match, sur les 10 derniers matchs de Nice à domicile, à l'Allianz, 11 buteurs différents. C'est hallucinant.
Mais ça, c'est la force de Nice, cette
saison. Je les cite, hein. Donc ce soir, Thuram, Dolberg, avant ça, Boudaoui, Todibo, Bar, Attal, Delors, Guessant, Guiri, Lemina, Kluivert. Mais oui, c'est pour ça a du sens aussi, quand même.
Tout à l'heure,
tout le monde peut marquer à Nice.
Tout à l'heure, Hugo disait qu'à l'époque, on voyait pas vraiment d'équipe type. Mais je suis désolé, à Nice aussi, c'est pas une critique, mais pour dégager une équipe type des 11 joueurs dont vous êtes sûr qu'ils vont être alignés par Christophe Galtier, c'est pas si facile, hein.
Ouais, tu as.
Il y a beaucoup de concurrents.
Benitez, Todibo, Dante, Guiri, 4, Boudaoui, Kluivert, Rosario.
Lemina?
Ouais, t'en as 6-7. Lemina quand il est là.
Lemina quand il est là.
Ouais, t'en as 3. Ça joue sur 3-4 postes.
En fait, oui, bien sûr, ouais, ça joue sur 3-4 postes. Mais surtout, c'est ça qui est quand même intéressant, c'est que Christophe Galtier a le choix entre Dolberg et Delors. Il y a beaucoup d'équipes, tu vois, qui rêveraient de ça, quoi.
Mais c'est énorme. Et puis, comme disait tout à l'heure Florent, le supporter niçois, quand Lemina est à la canne, quand Schneiderlin est suspendu, il sort du chapeau Kefren Thuram, qui est un bon joueur de Ligue 1,
bon joueur, très
qui progresse saison après saison.
J'aimerais juste mettre un petit highlight sur... Je parle franglais comme Kevin, putain, maintenant, c'est horrible.
Parle en français et poliment aussi.
J'aimerais mettre une petite emphase sur un joueur que j'aime beaucoup et qui, je pense, pour le plus grand bien de Nice, n'est pas parti à la CAN. C'est notre ami Boudaoui. Je trouve que c'est un joueur qui a affiché beaucoup de promesses il y a 2 saisons. On l'a un petit peu perdu avec la gestion de Vieira, qui était un petit peu bizarre vis-à-vis de lui. C'est un vrai talent. Je pense que c'est vraiment un joueur qui va exploser et qui aura le niveau Ligue des Champions sur les 3-4 ans.
Ah oui,
et quand je le vois, je trouve qu'il est... il manque de continuité. Aujourd'hui, non, pas forcément, mais pas par bribes. Et ce qui lui manque, c'est de la continuité, de la constance dans les matchs. Mais quand je le vois jouer, moi, je vois sur certaines actions, je vois un joueur de classe. Alors, je m'emporte
peut-être un petit peu. Ça manque un peu de volume encore, d'épaisseur, je trouve.
Pour un joueur de 22 ans qui a son gabarit là...
Moi, tu sais que c'est pas moi qui va parler du gabarit. Ça me pose pas de problème. C'est un bon joueur de foot. Moi, j'ai trouvé surtout un joueur ce soir, et je le comprends complètement, dans la déception peut-être de ne pas être avec la sélection algérienne à la CAN, justement. Je pense qu'il doit être quand même assez affecté, et c'est bien normal, je le répète. mais je l'ai trouvé quand même un peu emprunté, c'était déjà le cas la semaine dernière, donc je trouve pas qu'il est dans sa meilleure phase et aujourd'hui j'ai pas aimé son match.
Moi je trouve quand même qu'il est intéressant et surtout je pense surtout que sur le côté comme ça c'est pas forcément son meilleur poste, mais après on verra.
Benitez hein, qui est français depuis un mois, on le rappelle, est naturalisé français.
Bah faut le prendre en dérobleu.
Non, bon, ah moi, oui, je suis désolé, j'en parlais au coach.
Même Galtier le dit, hein, il n'est pas prêt pour les Bleus. Et ce soir, excusez-moi, il est quand même coupable sur l'égalisation.
Moi, je préfère Lafond. Tu vois, on en parlait avant le match. S'il y avait un troisième gardien à choisir, moi, je trouve que Lafond, vraiment, il est en train de bien progresser.
Tu le vends bleu, toi, direct.
En tout cas, entre les deux joueurs, je choisirais plutôt Lafond.
Prends Lafond, toi, plutôt.
Ouais. Ah, c'est un bon joueur, Lafond, vraiment. Il est impressionnant et il fait une très, très grosse saison.
C'est un jeune gardien, en plus. C'était une promesse pour l'équipe de France. Il a 29 ans, Benitez.
Il a 29 ans, pour ça.
Voilà messieurs pour la victoire de Nice face à Nantes. On vient dans un instant. Tiens, on va faire une grosse page mercato. On va parler de Marseille, de Paris également, Lille aussi qui aujourd'hui nous crédite d'une immense surprise. Le retour d'Athem Ben Arfa en Ligue 1 9 mois après avoir quitté les Girondins. Allez, on vient dans un instant. À tout de suite.
RMC. L'After Foot.